micro-ondes.
Dans la foulée de la mobilisation associative du 11 octobre, intitulée « Ça ne tient plus », l'équipe de micro-ondes a consacré son émission du 8 novembre à la situation actuelle des associations. Baisse de subventions, atteinte aux libertés associatives, marchandisation ou encore conditions de travail des salariés. Nous avions invité l'Observatoire des libertés associatives à prendre part à cette émission, mais il n'était malheureusement pas disponible. Nous avons malgré tout eu la chance de nous entretenir avec un de ses membres, Antonio Delfini, en marge de cette émission. Et nous avons le plaisir de vous partager l'intégralité de cet entretien.
Bonjour, je m'appelle Antonio Delfini, donc je suis chercheur en sciences sociales, sociologue, et je travaille depuis 4-5 ans maintenant pour l'Observatoire des libertés associatives, donc une structure qui s'est montée en 2020 sur la base de deux dynamiques, une dynamique plutôt associative avec des associations qui sentaient un durcissement de leurs relations avec les pouvoirs publics et de leurs échanges avec leurs financeurs, et de l'autre côté, un collectif de chercheurs en sciences sociales qui travaillait, défrichait un peu cette thématique de la répression des libertés associatives. Et donc, cet observatoire met ensemble des acteurs du monde associatif et des chercheurs qui tentent d'observer, d'analyser un peu ces dynamiques-là.
Et donc, vous venez de coécrire un livre qui s'appelle « L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire ». Et dans ce livre, vous décrivez les atteintes aux libertés que vous avez pu recenser. Donc déjà, pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle d'atteinte aux libertés associatives? Et c'est quoi les différentes formes d'atteinte que vous avez pu constater et mettre en lumière?
Alors effectivement, c'est quelque chose d'important parce que on ne parlait pas dans les premiers rapports de l'Observatoire des libertés associatives, parce que donc ce livre, c'est le fruit d'un travail de 5 ans, la compilation de beaucoup de données qui ont été amassées et présentées dans le cadre de rapports de l'Observatoire, et donc qui vient faire un peu un point d'étape un peu sur ces premiers travaux. Et donc c'est important de spécifier qu'il y a une distinction entre liberté d'association et liberté associative. Effectivement, aujourd'hui en France, on a la capacité assez facilement de pouvoir créer des associations. Alors on pourra y revenir peut-être dans l'entretien, on a quand même quelques dangers sur cette liberté d'association, notamment avec les mesures de dissolution, qui sont des mesures très fortes et très impactantes en fait pour le monde associatif, mais globalement, en gros, la liberté d'association n'est pas mise à mal en France. Par contre, ce qui est mis à mal, c'est les capacités pour les associations à pouvoir mener à bien leur mission et les objectifs qu'elles se sont donnés. Et donc pour ça, de pouvoir utiliser quelques grandes libertés publiques que sont la liberté d'expression, les libertés de rassemblement, les libertés de réunion, qui elles effectivement sont mises à mal. Et donc les associations ne sont pas visées en tant que telles. Par contre, c'est les ressources, les moyens qui sont à leur disposition pour mener leur action qui elles sont très directement impactées aujourd'hui. Et donc on avait présenté lors du premier rapport de l'Observatoire une première typologie en fait des attaques à destination des associations, et donc on recensait quatre grandes formes d'attaques. La première, qu'aujourd'hui on connaît bien, qui à l'époque n'était pas aussi visible médiatiquement, mais qu'aujourd'hui voilà est assez fortement renseignée, c'est les fameuses coupures de subventions ou retrait de locaux vis-à-vis d'associations qui auraient pris position dans le débat public, organisé des événements, lancé des pétitions, et à qui on vient effectivement couper les subventions ou retirer des possibilités d'organiser des événements ou de se réunir. On a aussi tout ce qui est peut-être un peu moins visible, mais en réalité aussi très très impactante, mais toutes les mesures de disqualification des associations. Donc on est plutôt dans le registre du discours, du symbolique, mais qui vont entraîner des formes d'ostracisation. On met les associations au banc, on les prévient plus des rendez-vous, on dit il y a pas de fumée sans feu, si cette association est impactée, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Voilà, toutes ces mesures là un peu qui sont effectivement moins visibles, mais qui ont des vraies incidences. On pensait à Écoterroriste, c'était le ministre de l'Intérieur qui avait accusé les Soulèvements de la Terre et d'autres associations écologiques de relever du terrorisme. Voilà, c'est ce genre d'attaque-là. Et puis, on mettait effectivement deux autres formes d'attaques, les attaques en justice, beaucoup d'attaques pour diffamation envers des militants et militantes associatives quand elles dénoncent en fait des politiques publiques ou des choses comme ça. Aussi des amendes très élevées qui sont très impactantes en fait pour le pour les associations en justice et qui les oblige en réalité à avoir une position plutôt défensive, à mobiliser énormément d'énergie et d'argent pour se défendre plutôt que pour mener le but de leur association. Et enfin, chose sur laquelle on insiste peut-être un peu moins, mais que sont toutes les mesures de policières, toute la répression policière. Alors là, on poste notamment, on a sorti un rapport il y a quelques mois sur les associations de soutien aux exilés, aux trois frontières britanniques, italiennes et espagnoles. Et là, on voit qu'en fait, l'action des policiers, des CRS, est très, très impactante, empêche de mener des maraudes, de venir en soutien à ces populations-là. Et donc là, il y a vraiment quelque chose aussi sur ce secteur-là. Donc voilà, quatre grandes formes de répression des associations qui s'agencent de manière différente en fonction des secteurs associatifs sur lesquels on les regarde.
Et est-ce que vous auriez des chiffres et des exemples concrets de l'utilisation de ces différentes formes d'atteinte aux libertés ?
Oui, les exemples sont en réalité assez récurrents. Voilà, depuis qu'on a mis en place en fait ce travail et cet observatoire, on est alimenté chaque mois en fait par des attaques et des exemples d'attaques d'associations. J'en ai une en tête sur la question des coupures de subventions qui est un peu ancienne mais qui est très parlante. C'était l'association qui n'existe plus aujourd'hui et donc cette mesure de répression a eu un impact sur l'existence même de l'association, qui était l'association le Génépi. Et donc c'était des associations d'étudiants qui intervenaient en prison. Et donc avec des liens avec l'administration pénitentiaire, mais qui mettait aussi en place un journal dans lequel il critiquait assez ouvertement en fait les politiques pénitentiaires en France. Et c'était la ministre de la Justice de l'époque qui s'appelait Nicole Belloubet qui avait à la matinale de France Inter dit très explicitement cette association a des propos contre notre politique pénitentiaire et donc je prends la décision de supprimer, je ne sais plus, c'était 60 000 euros, 70 000 euros de subvention. Et donc ça, c'est assez rare en fait d'avoir des institutions qui reconnaissent ouvertement en fait le caractère répressif de leurs attaques. Généralement, c'est plus dissimulé, plus caché. Il y a justement un gros travail pour essayer de forcer l'institution à donner les justifications un peu précises de ces pratiques. Mais donc là, c'était mis à la matinale d'une grande radio publique très ouvertement. Et donc ça montrait bien en fait l'ampleur du problème. Sur les questions de disqualification, j'ai parlé du terme d'éco-terrorisme utilisé par Gérald Darmanin. C'est beaucoup dans les quartiers populaires des accusations de communautarisme, d'islamisme, de séparatisme, beaucoup de mots qui sont utilisés un peu à tort et à travers et qui viennent marquer au fer rouge en fait les militants associatifs qui sont ainsi désignés. Sur les questions des attaques en justice, on avait beaucoup d'attaques en diffamation. On avait un militant associatif de Valence il y a quelques années qui avait dénoncé une chasse aux musulmans. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est la liberté d'expression. En tout cas, on peut dénoncer des politiques publiques dans ce sens là et qui avait été attaqué par un préfet. Et donc voilà, le procès n'était même pas allé jusqu'à son terme. Les attaques, elles étaient pas caractérisées de manière juridique, mais ça avait forcé le militant et l'association à organiser des soirées de soutien, à rassembler de l'argent, à mettre une cagnotte en ligne, et enfin énormément de choses qui in fine détournent l'association en fait de ses buts directs. Et après sur la question des pratiques policières, c'était par exemple notamment à Calais où on a mené ce travail-là, des amendes à répétition sur les véhicules, par exemple, des militants qui venaient faire les maraudes et donner à manger. Et donc, pour défaut d'essuie-glace, pneus lisses, stationnement irrégulier, des motifs qui, en fait, sont clairement des prétextes pour pouvoir renforcer en fait le coût de l'engagement de ces militants-là. Il y avait même une vidéo qui avait été diffusée par l'association Utopia 56, où on voyait un policier dire « on va vous user ». On va user les militants et ça c'était assez parlant aussi parce que c'est un peu exactement ce qu'on essaye de montrer derrière ça, c'est que ces petites pratiques là qui sont pas ce qu'on entend habituellement par le terme de répression, où on penserait tout de suite au maintien de l'ordre, aux violences policières, c'est un ensemble de petites pratiques plus discrètes, plus cachées, mais qui renforcent considérablement en fait le coût de l'engagement pour les associations. Et après, en termes de chiffres sur l'aspect quantitatif, donc c'est toujours très compliqué à essayer de mesurer ça précisément parce qu'il y a énormément de choses qui ne se disent pas, qui ne paraissent pas dans la presse, sur lesquelles les associations aussi ont un peu peur d'en parler, de peur de voilà, de représailles, de suites. Voilà, quand on tape dans un moteur de recherche et qu'on a le nom de son association qui est immédiatement associé à des accusations, des coupures de subventions, bah clairement au niveau de la réputation, c'est un petit peu compliqué. Nous on fait un point au sein de l'observatoire chaque mois et on a en gros une quinzaine de cas qui nous remontent chaque mois et dont on sait que en réalité, il y en a beaucoup plus derrière. Mais donc voilà, on est dans cette ordre de grandeur.
Vous avez mentionné plusieurs fois le cas des dissolutions. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus de ce cas précis et aussi parler de son évolution dans le temps, dans son utilisation ?
Oui, complètement. Donc, quand ce travail s'est mis en route donc en 2020, comme je disais tout à l'heure, on sentait qu'il y avait un durcissement un peu des relations association-pouvoir public sur la base des quelques cas là que j'ai pu présenter et qui, à l'époque, nous inquiétaient beaucoup là-dessus. Depuis, en fait, ce constat qui a donné naissance à l'Observatoire n'a fait que s'empirer et que s'intensifier. Et en témoigne, en fait, une loi qui est très importante, qui a été votée en 2021, qui s'appelle la loi séparatisme, qui a mis en place deux outils contre les associations. Donc, une extension des mesures de dissolution, c'est-à-dire on ouvre la capacité de pouvoir dissoudre plus d'associations selon des motifs plus diversifiés, et le contrat d'engagement républicain dont on reviendra peut-être tout à l'heure. Sur cette question de la dissolution, en fait, on voit qu'il y a eu une évolution avant même la loi séparatisme, c'est-à-dire que, en gros, c'est concomitant à l'arrivée de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur s'est saisi de cet outil-là comme rarement, en fait, dans l'histoire, il a été mobilisé. C'est-à-dire que depuis 2019, on a en gros une cinquantaine d'associations qui ont été dissoutes, donc on est sur 25% du total des associations dissoutes depuis la mise en place de la procédure en 1936. Donc on est sur un volume qui est très conséquent, et en plus on est sur un changement en fait d'utilisation de l'outil, c'est-à-dire là où l'outil en fait était auparavant utilisé à des moments très précis de l'histoire de France, un peu à des moments charnières, la libération, mai 68, les décolonisations. Aujourd'hui, on voit que c'est devenu un outil un peu routinier des régulations de l'État avec les associations. Et donc, on a 5 ou 6 dissolutions par an depuis 2019. Et donc, voilà, donc ça, c'est assez alarmant, avec pour nous vraiment un tournant autour de la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Qui s'est mis en place suite à l'assassinat de Samuel Paty et qui a été mis sur la base de justifications qui étaient clairement pas juridiquement prouvées et mis sur la table. Et donc, ça a fait un réel tournant.
Et pour comprendre un peu, parce qu'il y a aussi des mesures de dissolution judiciaire, est-ce qu'une dissolution administrative a besoin de passer au crible de la justice pour vérifier que c'est justifié, ou l'administration a cette capacité elle-même à le décider?
Effectivement, en fait, nous, ce qu'on pose dans le livre, c'est une remise en question complète, en fait, de ces mesures de dissolution administrative, en montrant qu'il existe effectivement des dissolutions judiciaires qui ne sont jamais utilisées, en fait, et qui permettent de préserver, un peu les droits de la défense, quoi, une proportionnalité de la peine, un positionnement de l'association. Là, c'est des mesures de dissolution administrative qui sont prises sans contradictoire. Donc après, l'association peut demander une remise en cause et aller devant le tribunal administratif et le Conseil d'État, en fait, pour essayer de revenir sur cette dissolution. Mais en réalité, la dissolution judiciaire n'est jamais utilisée, alors qu'elle pourrait respecter les principes de défense élémentaires, forcer à ce que l'institution se justifie sur les motifs, et puis avoir une proportionnalité de la peine, parce que là, on a des disparitions d'associations pures et simples sur des motifs qui sont juridiquement quasiment inexistants, quoi.
Et initialement, en fait, la mesure de dissolution administrative avait été créée pour lutter contre les groupuscules d'extrême droite. Est-ce que on peut être pour la dissolution d'organisations d'extrême droite et contre ces dérives d'utilisation de la dissolution? Est-ce que on peut faire la part des choses?
Exactement, mais non. Nous, ce qu'on met au débat et à discuter avec l'ensemble du monde associatif, des militants, des chercheurs, c'est d'avoir une position très claire contre la dissolution administrative, parce que effectivement, au début, elle a été justifiée à sa création en 36 pour s'attaquer aux ligues fascistes et à l'extrême droite, mais on a vu qu'elle est très rapidement en réalité venue pour s'attaquer en fait à des mouvements décoloniaux, à des mouvements de gauche. Et donc, en fait, le renforcement de l'arsenal administratif se retourne de toute façon contre le camp d'émancipation. Et par ailleurs, donc certains des chercheurs au sein de l'Observatoire ont mené une enquête en montrant qu'il y avait des conséquences très inégales en fait entre les associations d'extrême droite et de gauche ou contre les discriminations qui étaient dissoutes. C'est-à-dire que les associations d'extrême droite qui sont dissoutes sont de toute façon des associations qui sont souvent à la marge de la légalité et donc qui trouvent assez rapidement en fait à se reconstituer et à pouvoir remettre en place leur action, alors que c'est une mesure beaucoup plus coûteuse, notamment par exemple pour les associations antiracistes, qui étaient des associations qui mobilisaient le droit de manière très importante, et donc les conséquences en fait des dissolutions sont beaucoup plus lourdes pour les associations de gauche que de droite, pour le dire comme ça. Et c'est des outils qui, même avec les meilleures intentions du monde, se retournent de toute façon contre le camp de l'émancipation. Et donc c'est pour ça que on pose que il faut lutter contre l'extrême droite dans les urnes, dans la rue, dans les tribunaux, mais pas en conseil des ministres et pas en développant un arsenal qui inévitablement se retournera contre les gens qui défendent les libertés publiques, quoi.
Et il y a des mesures donc très visibles comme les dissolutions, mais il y a des manières donc d'atteindre aux libertés associatives de manière beaucoup plus discrète, qui est simplement de pas donner une subvention ou de pas la reconduire puisque c'est discrétionnaire et qu'elles n'ont pas à justifier. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir ou pour prouver que on n'a pas été financé pour des raisons idéologiques? Comment est-ce que vous arrivez à recenser ces cas et comment est-ce qu'on arrive à se défendre quand il y a une association et qu'on vit une situation comme ça?
Alors, au sein de l'Observatoire, en fait, on a mené des recherches pendant 3 ans et au bout de 3 ans, on s'est dit il fallait aussi pouvoir mettre à disposition des associations, des conseils, un accompagnement aussi pour ces associations qui sont directement attaquées. Elles venaient nous contacter et ce qu'on leur proposait dans un premier temps, c'est d'apparaître dans des rapports, d'avoir des fiches récapitulatives de ces attaques. Et donc, on a développé un pôle de défense associative au sein de l'Observatoire qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va continuer son travail les mois et années à venir. Et donc, justement, un des objectifs est de mener ce travail-là. C'est-à-dire qu'effectivement, comme la subvention est discrétionnaire, l'institution n'a pas l'obligation de se justifier pour pouvoir retirer une subvention. Et donc, il faut un travail très important quand ces choses-là arrivent, de rencontre avec l'institution, d'écrire des mails, de rédiger les comptes rendus de toutes les réunions qui ont été mises en place pour essayer d'obtenir justement la justification un peu précise du retrait de la subvention. Et alors après, il peut y avoir des retraits, on a vu ça dans certaines régions, des retraits généraux qui concernent tout un secteur où on baisse l'ensemble des subventions de tout un secteur culturel, écologique, on a vu ça ces dernières années. Donc là, on n'a pas attaques ciblées. Nous, on se concentre effectivement sur des attaques ciblées sur telle ou telle association qui l'empêche en fait de jouer son rôle d'aiguillon démocratique, de contre-pouvoir dans la société locale. Et donc, tout l'enjeu est effectivement après d'aller essayer de reconstituer en fait la justification précise et les modalités avec lesquelles ces sanctions ont pu être mises en place. Et donc, c'est un travail qui est fastidieux, qui est très long et dont on n'est jamais sûr à l'avance que va produire complètement ses effets. Il y a des fois, c'est très compliqué. Mais en réalité, on voit que dans certaines des oppositions au niveau des collectivités locales, dans l'opposition, on peut avoir un peu d'informations. Des fois, il y a même des fonctionnaires, des techniciens, en fait, qui disent des choses entre deux portes, dans les couloirs, et qui permettent de mieux comprendre, en fait, le contexte général dans lequel la décision a été prise. Et donc ça, on essaye de pouvoir matérialiser en fait ces éléments-là, mais c'est toujours quelque chose de très compliqué et que on aura toujours du mal tant que effectivement la subvention restera discrétionnaire et totalement le fait du prince. Aujourd'hui, c'est ça que nous on veut aussi poser sur la table, c'est que une majorité dans n'importe quelle collectivité locale, une force politique prend la majorité au sein de l'exécutif et après peut donner à ses amis et reprendre aux associations qu'elle ne soutient pas. Et ça, toutes couleurs politiques confondues. Et nous, c'est justement ça qu'on vient essayer d'un peu de mettre sur la table en disant l'enjeu du modèle associatif et la place des associations dans la démocratie doit faire en sorte qu'on ait une sorte de précaré associatif qui soit protégé et qui soit pas soumis en fait aux desiderata des hommes politiques, quoi.
Et il y a un cas, c'est celui du contrôle des FDVA. De l'attribution des FDVA en amont par les RG. Est-ce que c'est un cas que vous avez documenté? Si oui, est-ce que vous pouvez en parler?
Ouais, bien sûr. Mais donc c'est un article de Mediapart qui est sorti là il y a une semaine et demie maintenant, et qui se base sur une note de l'Observatoire qui sortira là dans les semaines à venir. Et donc c'est un chercheur collègue, Pablo Corroyer, qui a mené une enquête à la base assez sectorisée sur le plateau de Mille Vaches, parce qu'on s'était rendu compte que voilà, dans la Creuse, en Corrèze, il y avait beaucoup d'attaques contre des associations d'éducation populaire écologistes, qui étaient liées notamment aussi à l'affaire Tarnac d'il y a quelques années, avec des groupes qui s'étaient installés là-bas. Et donc il a mené une enquête assez sectorisée, et il s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup d'associations étaient mis en dehors du fonds du développement de la vie associative, le FDVA, avant même l'instruction des dossiers en commission. Et donc c'est justement un fonds assez innovant sur cette base-là, c'est-à-dire que ceux qui décident de l'attribution des subventions, il y a une pluralité d'acteurs, notamment des acteurs du monde associatif. On n'est justement pas dans quelque chose qui est totalement le fait du prince, avec une formation politique qui décide de toutes les subventions. Il y a justement une pluralité d'acteurs qui était mis autour de la table, mais l'enquête montre que il y a effectivement l'intervention des renseignements territoriaux en amont de cette commission de subvention qui délibère, en disant toutes ces associations-là, on les met de côté, et celles-là, elles ne peuvent pas participer en fait à la demande de subvention. Et en plus, ce qu'elle montre, c'est qu'il y avait une directive qui avait été envoyée par le ministère de l'Intérieur à l'ensemble des régions pour mettre en place un peu ce premier filtrage par les renseignements territoriaux. Donc c'est effectivement quelque chose d'important. Le fonds de développement de la vie associative, c'est un des plus gros fonds en termes de masse financière qui est alloué aux associations. Et donc on est vraiment sur un contrôle et en réalité une prise en charge de plus en plus sécuritaire en fait de cette question des subventions aux associations. Et donc c'est assez inquiétant, et ça vient renforcer le constat général qu'on mène depuis plusieurs années.
Et est-ce qu'on a une trace, les grilles des critères utilisés? Enfin, est-ce qu'on sait qui est écarté et pourquoi?
Eh ben donc on a plusieurs associations qui sont revenues vers nous ces dernières années en nous expliquant que elles ne comprenaient pas, elles avaient eu le FDVA les années précédentes sans problème, et que là d'un coup en fait elles sortaient sans explication autre, et qu'elles craignaient que ce soit par des prises de position qu'elles ont faites, mais là aussi plus inquiétant aussi des fois par la seule explication que pouvaient donner les associations, c'est par exemple l'investissement individuel de certains membres de l'association dans des dynamiques et dans des mobilisations. C'est-à-dire que c'était même pas l'objectif même de l'association, ou ce que l'association aurait pu faire en tant que structure associative, mais que c'était des individus qui composent ce collectif-là, qui sont identifiés par les renseignements et dont on dit bon donc l'association dans sa globalité en fait est punie de par les engagements qui sont des engagements en plus complètement légaux quoi hein. Je veux dire, on n'est pas sur des choses donc c'était les méga bassines, les questions écologiques, c'était les questions d'éducation populaire, c'était le planning familial en Corrèze qui avait été très durement impacté aussi. On tourne de toute façon beaucoup autour de ces thématiques-là. Le féminisme, l'écologie, l'antiracisme sont des secteurs associatifs qui sont particulièrement concernés par ces mesures.
Et tout ça est assez inquiétant, mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé, ou on voit vraiment une évolution récente?
En fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, dans le sens où des pratiques et de clientélisme et de répression en mobilisant les fonds publics ont toujours existé. Là, nous, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une accélération quand même très forte de la dynamique, et notamment qui passe par des lois. Et donc c'est pour ça que cette loi séparatisme en fait est assez inquiétante, parce que notamment avec le contrat d'engagement républicain, qui était un peu une forme juridique administrative qui devait venir encadrer justement ce retrait des subventions aux associations qu'on aurait dit anti-républicaines, on voit que il y a une volonté de l'État de construire un arsenal répressif à destination des associations pour pouvoir mettre en place de manière plus sécurisée juridiquement ces entraves aux libertés associatives. Bon, ce qu'on voit dans le cas du contrat d'engagement républicain, par exemple, c'est que à chaque fois que le CER a été attaqué en justice, les associations ont gagné, parce que on a un dispositif qui n'est pas encore très carré juridiquement, et donc là on voit qu'il y a des volontés d'aller plus loin encore que le contrat d'engagement républicain. Mais on voit aussi qu'en fait ce climat-là général du CER, des dissolutions, des attaques incessantes, elle entraîne des formes d'autocensure très importantes du milieu associatif. où les gens ont peur de prendre position, ont peur de faire des pétitions, ont peur de mener des actions. Et donc ça, on l'avait, il y a une enquête quantitative de l'Observatoire qui est sortie avant l'été et qui montrait que 27% des associations, toutes associations confondues, on était sur une enquête quantitative avec 2500 répondants, assez représentatif du monde associatif dans sa globalité en France. Et donc, il y avait 27% d'associations qui déclaraient s'être auto-censurées. Ça montait à 41% pour les associations dites citoyennes, c'est-à-dire qui se mobilisent sur la défense des droits, qui organisent des débats et se mêlent de la chose publique et politique. Et donc, on voit que c'est massif. Et donc, ça, c'est des dizaines de débats, des dizaines de pétitions, des dizaines de manifestations qui ne sont plus organisées aujourd'hui par peur de représailles. Et donc voilà, là, au-delà des attaques en elles-mêmes, il y a ce phénomène-là qui est un peu diffus, mais qui est peut-être encore plus inquiétant, qui est une dépolitisation en fait de la politique au sens noble du terme des associations. Et voilà, on transforme les associations en délégataires de services publics. Vous êtes des branches de l'État externalisées. Et on voit aussi avec cet impératif de neutralité qui pèse sur les associations de plus en plus. Et donc, on demande aux associations de respecter en fait le devoir de réserve et la neutralité des fonctionnaires. Donc, vous êtes en gros des parties, des morceaux de l'État extériorisés, mais donc vous ne jouez plus votre rôle démocratique, vous ne jouez plus le rôle politique que vous avez dans la cité et qui pourtant est déterminant en fait pour les associations qui font entendre une autre voix de groupes non représentés. Et ça, c'est vraiment inquiétant.
Et du coup, d'avoir les corps intermédiaires qui sont un peu réduits à la neutralité, qui peuvent plus jouer leur rôle, pour vous, c'est quoi l'impact que ça a sur la société dans son ensemble ?
Bah, nous, le sous-titre de l'ouvrage, c'est un tournant autoritaire. Donc là, on voit, en fait, et si on met, en fait, ce constat-là, qui est sur la question associative, mais si on le met à côté de l'état lamentable dans lequel se trouve le dialogue social, notamment avec les syndicats, qui ont aussi subi d'importantes répressions ces dernières années, qui peuvent mettre des millions de personnes dans la rue et qu'on n'écoute pas du tout. Si on met à côté de ça les transformations du milieu des médias, de la presse et la concentration en fait médiatique dans les mains de quelques-uns, si on met à côté de ça les attaques récurrentes sur la justice, les juges, on a eu encore des exemples là ces derniers temps. Bon, on se dit que se dessine en tout cas une démocratie dans laquelle les contre-pouvoirs ne peuvent plus jouer leur rôle et qu'on a un renforcement en fait de l'exécutif, du pouvoir centralisé, une hyper-présidentialisation, voilà, et dont on voit en plus les dégâts actuellement avec une crise institutionnelle majeure qui se transformera peut-être en crise de régime. Enfin voilà, le système démocratique aujourd'hui est très très largement défaillant. Et il faut au contraire en fait reconnaître la place des contre-pouvoirs, mettre en jeu des légitimités différentes. La démocratie, c'est pas juste les élections une fois tous les 5 ans et puis après on rentre à la maison. C'est un travail quotidien qui permet justement de faire entendre des voix qui sont peu représentées ou minorisées. Et donc voilà, tout ça est assez inquiétant. Mais je veux pas finir non plus sur un pessimisme trop grand. Au sein de l'Observatoire, je le disais, on met en place aussi là un pôle d'accompagnement des associations, on met en place un travail de plaidoyer et il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça. Et donc, voilà, l'ouvrage en fait état de beaucoup de répression contre des associations, mais on le dit rapidement en introduction aussi, ça montre aussi qu'en fait, on a un tissu associatif qui est vraiment très très présent en fait, des associations qui se bougent, qui sont là et qui montrent que les gens se laissent pas faire. Donc voilà, faut pas être trop pessimiste et on a aussi des raisons d'espérer, même si l'horizon politique est un peu bouché en ce moment, effectivement.
Et sur les raisons d'espérer, justement, vous parlez d'un certain nombre de solutions possibles dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Oui, c'est ça. À côté de ce travail en fait de défense des associations, donc et de d'outillage sur les plans juridiques, sur la capacité à s'exprimer dans les médias aussi, qui leur permettent de peut-être de contrebalancer le rapport de force qui est souvent défavorable en fait aux associations. On met sur la table en fait quelques grandes propositions. Donc il y avait les commissions mixtes d'attribution des subventions, qui sont un outil, un dispositif qui peut paraître comme ça un peu technique, mais qui en réalité en fait revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est transforme la modalité d'attribution en fait de la subvention et la met en délibération avec une pluralité de personnes. On n'a pas seulement des gens qui font partie de la majorité politique, on a aussi des gens qui font partie des oppositions, on a aussi potentiellement des personnes du milieu associatif local, de la société civile locale qui connaissent le terrain et qui peuvent voilà avoir des positionnements. Donc là, l'idée, c'est de pluraliser la prise de décision sur la question des subventions. On met en avant un fonds d'interpellation des associations parce que justement, si on veut que les associations jouent ce rôle démocratique un peu d'entrer dans le débat avec les pouvoirs publics, d'alerter les citoyens sur les dérives des politiques publiques telles qu'elles sont mises en place, il faut leur donner les moyens de le faire parce que c'est un travail très conséquent. Et donc, on met sur la table, mais ce qui est présent en fait dans les débats associatifs depuis plusieurs années, hein, on reprend un peu ces propositions-là, donc la création d'un fonds d'interpellation qui puisse financer les associations pour que justement elles puissent jouer ce rôle d'aiguillon démocratique, de contre-pouvoir au niveau local. Voilà, c'est quelques-unes des propositions qu'on essaie de mettre sur la table et d'avancer, notamment dans le cadre de la campagne pour les élections municipales. Parce que si effectivement aujourd'hui au niveau national, l'horizon semble un peu bouché en fait sur la possibilité de mettre en place des outils un peu innovants, on est plutôt sur un durcissement en fait des outils déjà existants qui sont déjà assez calamiteux. On se dit qu'au niveau local, en fait, il y a la possibilité de mettre en place des sortes de villes refuges pour les libertés associatives, c'est-à-dire que les majorités qui viendraient là diraient non seulement on s'engage à ne pas mobiliser le contrat d'engagement républicain et pas réprimer les associations avec lesquelles on peut avoir des désaccords, mais en plus on va valoriser ce tissu associatif, mettre en place quelques-uns de ces dispositifs là pour que la démocratie puisse avoir plusieurs branches et plusieurs ailes et que elle soit sur l'élection, mais qu'elle soit aussi là je repense à ça, il y a le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, qui a quand même été la revendication du mouvement social le plus impressionnant de ces dernières années que les Gilets jaunes, qui est tombé complètement dans l'oubli. Donc voilà, un retour à une démocratie directe un peu plus présente permettrait aussi en fait d'avoir un approfondissement démocratique, notamment au niveau local.
Eh ben, merci beaucoup, merci énormément pour cet entretien.
Merci à vous.
Chers auditeurs, si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons vivement à réécouter l'émission de Micro-Ondes du 8 novembre sur la situation actuelle du milieu associatif. Elle est disponible en podcast sur la page de l'émission. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8.